Le moine. Chapitre 8. Toutes les recherches du marquis de la Cisternas avaient été vaines. Agnès était à jamais perdue pour lui. Le désespoir produisit un si violent effet sur sa constitution qu'il en résulta une longue et dangereuse maladie. Il ne put donc rendre visite à Elvire, comme il en avait l'intention, et dans l'ignorance où elle était de la cause de cette négligence, elle n'était pas médiocrement tourmentée. Lorenzo avait été empêché par la mort de sa sœur de faire part à son oncle de ses desseins sur Antonia. Les ordres d'Elvire lui interdisaient de se présenter devant elle sans le consentement du duc, et comme elle n'entendait plus parler de lui ni de ses propositions, elle conjecturait ou qu'il avait rencontré un meilleur parti ou qu'il lui avait été prescrit de renoncer à ses vues. Chaque jour la rendait plus inquiète sur la destinée d'Antonia. Cependant, tant qu'elle conserva la protection du prieur, elle supporta avec courage la perte des espérances qu'elle avait fondées sur Lorenzo et sur le marquis. Cette ressource à présent lui manquait. Elle était convaincue que la ruine de sa fille avait été méditée par Ambrosio. Et lorsqu'elle réfléchissait que sa mort laisserait Antonia sans ami et sans soutien dans un monde si bas, si perfide et si dépravé, son cœur se gonflait d'amertume et de crainte. La maladie de Don Raymond paraissait faire des progrès. Lorenzo était constamment à son chevet et le soignait avec une tendresse vraiment fraternelle. Le marquis avait conçu une affection si profonde pour sa maîtresse défunte que personne ne croyait qu'il pût survivre à cette perte. Il aurait succombé à son chagrin, sans la persuasion qu'elle vivait encore, et qu'elle avait besoin de son assistance. Quoique convaincu du contraire, les gens qui l'entouraient l'encourageaient dans une croyance qui faisait sa seule consolation. Théodore était le seul qui s'efforça de réaliser les chimères de son maître. Il était éternellement occupé à faire des combinaisons pour entrer dans le couvent ou du moins pour obtenir des nonnes quelques nouvelles d'Agnès. Il était devenu un vrai protée et changeait de forme tous les jours. Mais toutes ces métamorphoses avaient fort peu de résultats. Il revenait régulièrement au palais de la Cisternas sans aucun renseignement qui pût confirmer les espérances de son maître. Un jour, il imagina de se déguiser en mendiant. Il se mit un emplâtre sur l'œil gauche, prit en main sa guitare et se plaça à la porte du couvent. Il se mêla à une troupe de mendiants qui s'assemblait chaque jour à la porte de Sainte-Claire pour recevoir la soupe que les nonnes avaient coutume de leur distribuer à midi. Ils étaient tous munis de pots ou d'écuelles pour l'emporter, mais Théodore, qui n'avait pas d'ustensiles de cette espèce, demanda la permission de manger sa portion à la porte du couvent. On y consentit sans difficulté. Sa douce voix et sa figure avenante, en dépit de son emplâtre, gagnèrent le cœur de la bonne vieille portière, qui, aidée d'une sœur laide, était occupée à donner à chacun sa part. Elle engagea Théodore à attendre que les autres fussent partis, et lui promit de faire droit à sa requête. Le jeune homme ne demandait pas mieux, car ce n'était pas pour manger la soupe qu'il se présentait au couvent. Il remercia la portière de la permission, s'éloigna de la porte, et s'asseyant sur une grande pierre, il s'amusa à accorder sa guitare pendant qu'on servait les mendiants. Aussitôt que la foule fut partie, Théodore fut appelé à la porte et invité à entrer. Il obéit avec un extrême empressement, mais il affecta un grand respect en passant le seuil consacré, et feignit d'être fort intimidé par la présence des révérendes dames. Sa prétendue timidité flattait la vanité des nonnes, qui entreprirent de le rassurer. La portière l'emmena dans un petit parloir. La sœur Laye, cependant, était allée à la cuisine, d'où elle revint bientôt avec une double portion de soupe de meilleure qualité que celle qu'on donnait aux mendiants. Il répondit à ses attentions par de vifs témoignages de reconnaissance et une quantité de bénédictions pour ses bienfaitrices. Pendant qu'il mangeait, les nonnes admiraient la délicatesse de ses traits. La beauté de ses cheveux et le charme et la grâce qui accompagnaient tous ses gestes. Elles conclurent leur conférence en décidant que ce serait rendre au ciel un vrai service que de prier l'abbesse d'intercéder auprès d'Ambrosio pour qu'il admît le mendiant dans l'ordre des Capucins. Ce point arrêté, la portière, qui était un personnage d'une grande influence dans le couvent, se rendit en toute hâte à la cellule de la supérieure. Là, elle fit une si brûlante énumération des qualités de Théodore que la vieille dame fut curieuse de le voir. La portière fut donc chargée de le mener à la grille du parloir. Dans l'intervalle, le mendiant supposé sondait la sœur Lay sur le sort d'Agnès, mais sa déposition ne fit que confirmer les assertions de la supérieure. Agnès était tombée malade en revenant de confesse, depuis elle n'avait pas quitté le lit, et la sœur avait assisté en personne à l'enterrement. Elle attestait même avoir vu le corps mort et avoir aidé de ses mains à le déposer dans la bière. Ce récit découragea Théodore, mais, ayant poussé aussi loin l'aventure, il résolut d'en voir la fin. La portière revint et lui ordonna de la suivre. Il obéit et fut conduite au parloir. La dame abbesse était déjà derrière la grille. Elle était entourée des nonnes qui s'étaient attroupées, curieuses d'une scène qui leur promettait quelque distraction. Théodore les salua avec un profond respect, et sa présence eut le pouvoir de dérider, un moment, même le front sévère de la supérieure. Elle lui fit plusieurs questions sur sa famille, sur sa religion, et sur les causes qui l'avaient réduite à la mendicité. Ses réponses à cet interrogatoire furent parfaitement satisfaisantes et parfaitement fausses. Elle lui demanda alors ce qu'il pensait de la vie monastique. Il en parla en termes pleins d'estime et de vénération, sur quoi elle lui dit qu'il n'était pas impossible d'obtenir qu'il fût admis dans un ordre religieux. L'abbesse quitta le parloir. Les nonnes, qui par respect pour la supérieure étaient restées, jusqu'alors silencieuses, se pressèrent contre la grille et assaillirent le jeune homme d'une foule de demandes. Il les avait déjà examinées toutes avec attention. Hélas, Agnès n'était point parmi elles. Les nonnes demandèrent s'il savait la musique. Il répliqua avec modestie que ça n'était point à lui à prononcer sur son mérite, mais il réclama la permission de les prendre pour juges. On y consentit sans peine. « Mais au moins, dit la vieille portière, ayez soin de ne rien chanter de profane. »«
Comptez sur ma prudence, repartit Théodore. Vous allez apprendre, par l'aventure d'une demoiselle qui s'est prise subitement d'un chevalier inconnu, combien il est dangereux pour de jeunes femmes de s'abandonner à leur passion. »
« Mais l'aventure, est-elle vraie ? » demanda la portière. « À la lettre. Elle arrive en Danemark, et l'héroïne en était réputée si jolie qu'on ne la connaissait que sous le nom de la jeune fille.
« En Danemark, dites-vous ? » marmotta une vieille nonne. « Ne sont-ils pas tous noirs, en Danemark ?»«
Nullement, révérende dame. Ils sont verts pois tendres, avec des cheveux et des favoris couleur de flamme. »«
Mère de Dieu ! « Vert pois !» s'écria sœur Hélène. « Oh, c'est impossible !»«
Impossible !» dit la portière, avec un regard de mépris et de triomphe. « Pas du tout. Quand j'étais jeune femme, je me souviens d'en avoir vu plusieurs. »
Théodore accorda son instrument. Il avait lu l'histoire d'un roi d'Angleterre dont un ménestrel avait découvert la prison, et il espérait que le même stratagème lui ferait découvrir Agnès, si elle était dans le couvent. Il choisit une ballade qu'elle lui avait apprise elle-même au château de Lindenberg. Peut-être le son parviendrait-il jusqu'à elle, et répondrait-elle à quelqu'une d'estance. Sa guitare était d'accord, et il en joua, et il chanta. Les nonnes étaient charmées de la douceur de sa voix et de l'habileté avec laquelle il jouait de son instrument. Mais quelque agréable qu'eussent été ses applaudissements, en tout autre moment, ils étaient maintenant sans prix pour Théodore. Son artifice n'avait pas réussi. En vain, il s'arrêtait entre les stances. Aucune voix ne lui répondait, et il perdait l'espoir d'égaler Blondel. La cloche du couvent avertit les nonnes qu'il était temps de se rendre au réfectoire. Elles furent obligées de quitter la grille. Elles remercièrent le jeune homme du plaisir que sa musique leur avait fait, et lui recommandèrent de revenir le lendemain. Il le promit. Les nonnes, pour lui donner plus d'envie de tenir sa parole, lui dirent qu'il pourrait toujours compter sur le couvent pour sa subsistance et chacune d'elles lui fit un petit cadeau. L'une lui donna une boîte de confiture, l'autre un Agnus Dei, plusieurs lui apportèrent des reliques de saints, des figures de cire et des croix consacrées, et d'autres lui offrirent de ces petits objets où les religieuses excellent, tels que la broderie, les fleurs artificielles, la dentelle et les ouvrages d'aiguilles. Après avoir reçu ces dons avec des témoignages de respect et de reconnaissance, il fit observer que, n'ayant point de corbeille, il ne savait comment les emporter. Plusieurs des nonnes se hâtaient d'aller en chercher une, lorsqu'elles furent arrêtées par le retour d'une femme âgée, que Théodore n'avait point encore remarquée. Sa douce physionomie et son air vénérable prévenaient sur-le-champ en sa faveur.
« Ah ! » dit la portière, « voici la mère Sainte-Ursule avec une corbeille. »
La nonne s'approcha de la grille et présenta la corbeille à Théodore. Elle était de saule, doublée de satin bleu, et sur les quatre faces étaient peintes des scènes tirées de la légende de Sainte-Geneviève.
« Voici mon cadeau, » dit-elle, en lui mettant dans la main. « Bon jeune homme, ne le dédaignez pas. Quoique la valeur en semble insignifiante, il a maintes vertus cachées. »
Elle accompagna ces paroles d'un regard expressif qui ne fut pas perdu pour Théodore. En recevant ce présent, il s'approcha de la grille autant que possible.
« Agnès !» murmura-t-elle d'une voix à peine intelligible.
Théodore, néanmoins, en saisit le son. Il conclut que la corbeille contenait quelque mystère, et son cœur battit d'impatience et de joie. En ce moment, la supérieure revint. Son air était sombre et mécontent, et elle paraissait plus sévère que jamais.
« Mère Sainte-Ursule, j'ai à vous parler en particulier. »
La nonne changea de couleur et fut évidemment déconcertée.
« À moi, » répliqua-t-elle d'une voix défaillante.
La supérieure lui fit signe de venir et se retira. La mère Sainte-Ursule obéit. Bientôt la cloche du réfectoire sonna une seconde fois. Les nonnes quittèrent la grille et Théodore resta libre d'emporter son butin. Ravi d'avoir enfin quelques nouvelles à donner au marquis, il vola plutôt qu'il ne courut à l'hôtel de la Cisternas. En peu de minutes, il fut près du lit de son maître, la corbeille en main. Lorenzo était dans la chambre, s'efforçant de consoler son ami d'un malheur que lui-même il ne sentait que trop cruellement. Théodore raconta son aventure et l'espoir qu'avait fait naître le cadeau de la mère Sainte-Ursule. Le marquis se dressa sur son séant. Le feu qui, depuis la mort d'Agnès, s'était éteint dans sa poitrine, se ranima, et ses yeux étincelèrent d'anxiété. Les émotions que trahissait la physionomie de Lorenzo n'étaient guère plus faibles, et il attendait la solution de ce mystère avec une impatience inexplicable. Raymond prit la corbeille des mains de son page, il en vida le contenu sur son lit et examina tout avec une attention minutieuse. Il espérait trouver une lettre au fond. Rien de semblable n'apparut. On recommença les perquisitions, mais sans plus de succès. Enfin, Don Raymond remarqua qu'un des coins de la doublure de satin bleu était décousu. Il l'arracha promptement et en tira un petit morceau de papier qui n'était ni plié ni cacheté. Il était adressé au marquis de la Cisternas et contenait ce qui suit.
« Ayant reconnu votre page, je me hasarde à vous envoyer ce peu de lignes. Procurez-vous auprès du cardinal-duc l'ordre de m'arrêter ainsi que la supérieure, mais que cet ordre ne s'exécute que vendredi à minuit. C'est la fête de Sainte-Claire. Il y aura une procession de nonnes à la lueur des torches, et je serai du nombre. Prenez garde qu'on ne sache votre attention. Au moindre mot qui éveillerait les soupçons de la supérieure, vous n'entendriez plus parler de moi. Soyez prudent, si vous chérissez la mémoire d'Agnès et si vous désirez punir ces assassins. Ce que j'ai à vous dire glacera votre sang d'horreur. »
Signé Sainte-Ursule. Le marquis n'eut pas plutôt lu ce billet qu'il retomba sur son oreiller, sans connaissance ni mouvement. L'espoir qui l'avait aidé à supporter l'existence lui manquait, et ses lignes lui prouvaient trop clairement qu'Agnès n'était plus. Le coup fut moins violent pour Lorenzo, dont l'idée avait toujours été que sa sœur avait péri par quelque moyen criminel. Il était nécessaire de se procurer l'ordre d'arrêter l'abbesse de Sainte-Claire. Dans ce but, Ayant confié Raymond aux soins des meilleurs médecins de Madrid, il quitta l'hôtel de la Cisternas et dirigea sa course vers le palais du cardinal-duc. Son désappointement fut extrême lorsqu'il apprit que des affaires d'État avaient obligé le cardinal à partir pour une province éloignée. Il n'y avait que 5 jours jusqu'à vendredi, mais en voyageant jour et nuit, il espéra revenir à temps pour le pèlerinage de Sainte-Claire. Il y réussit. Il trouva le cardinal-duc et lui exposa le crime présumé de l'abbesse ainsi que les effets violents qu'il avait produits sur Don Raymond. Il ne pouvait employer d'arguments plus puissants que ce dernier. De tous ses neveux, le marquis était le seul auquel le cardinal-duc fut sincèrement attaché. C'était une adoration véritable, et à ses yeux l'abbesse ne pouvait pas avoir commis de crime plus grand que d'avoir mis en danger la vie du marquis. Aussi, il accorda sans difficulté le mandat d'arrêt. Il donna en outre à Lorenzo une lettre pour le principal officier de l'Inquisition par laquelle il lui recommandait de veiller à l'exécution du mandat. Muni de ses papiers, Medina se hâta de revenir à Madrid où il arriva le vendredi quelques heures avant la nuit. Il trouva le marquis un peu mieux, mais si faible, si épuisé, qu'il ne pouvait parler ou remuer sans de grands efforts. Ayant passé 1 heure près de lui, Lorenzo le quitta pour communiquer son projet à son oncle, et aussi pour remettre à Don Ramirez de Mello la lettre du cardinal. Le premier fut pétrifié d'horreur en apprenant le sort de sa malheureuse nièce. Il encouragea Lorenzo à punir les assassins et s'engagea à l'accompagner la nuit au couvent de Sainte-Claire. Don Ramirez promit le plus ferme appui et choisit une bande d'archers sûrs pour prévenir l'opposition de la populace. Mais tandis que Lorenzo était impatient de démasquer l'hypocrite religieuse, il ne se doutait pas des chagrins qu'un autre hypocrite, un autre religieux lui préparait. Aidé des agents infernaux de Mathilde, Ambrosio avait résolu la ruine de l'innocente Antonia. Le moment qui devait être si funeste pour elle arriva. Elle avait pris congé de sa mère pour la nuit. En l'embrassant, elle avait éprouvé un découragement qui ne lui était pas ordinaire. Elle la quitta, revint aussitôt, tomba dans ses bras maternels et baigna ses joues de larmes. Elle se sentait mal à l'aise et un secret pressentiment l'assurait qu'elle ne devait plus se revoir. Elvire le remarqua et essaya de dissiper en riant ses préjugés puérils. Elle la gronda doucement d'encourager cette tristesse sans fondement et l'avertit du danger d'entretenir de pareilles idées. À toutes ces remontrances, elle ne recevait pas d'autre réponse que « ma mère, oh mon Dieu, que je voudrais être au matin !» L'inquiétude d'Elvire au sujet de sa fille était un grand obstacle à son parfait rétablissement, et elle souffrait encore des suites de sa dangereuse maladie. Ce soir-là, elle était plus mal qu'à l'ordinaire et s'était mise au lit avant son heure accoutumée. Antonia se retira de chez sa mère avec regret, et jusqu'à ce que la porte fût fermée, elle fixa les yeux sur elle avec une expression mélancolique. Elle entra dans sa propre chambre. Son cœur était rempli d'amertume. Il lui semblait que tout son avenir était gâté et que le monde ne contenait rien qui valût la peine de vivre. Elle tomba sur sa chaise, appuya sa tête sur son bras et regarda le plancher sans le voir, tandis que les plus tristes images flottaient devant son imagination. Elle était dans cet état d'insensibilité lorsqu'elle en fut tirée par une douce musique qui se jouait sous sa fenêtre. Elle se leva, s'approcha de la croisée et l'ouvrit pour mieux entendre. Ayant jeté son voile sur sa figure, elle se hasarda à regarder dehors. À la clarté de la lune, elle aperçut en bas plusieurs hommes tenant en main des guitares et des luths. Et, à une petite distance d'eux, s'en tenait un autre enveloppé dans son manteau, et dont la taille et l'apparence avaient une forte ressemblance avec celle de Lorenzo. Elle ne se trompait pas dans cette conjecture. C'était effectivement Lorenzo lui-même, qui, lié par sa promesse de ne pas se présenter à Antonia sans le consentement de son oncle, tâchait de temps en temps par des sérénades de convaincre sa maîtresse que son attachement durait toujours. Son stratagème n'eut pas l'effet désiré. Antonia était loin de supposer que cette musique nocturne fût un compliment qu'on lui destina. Elle était trop modeste pour se croire digne de telles attentions, et présumant qu'elles étaient adressées à quelques dames voisines, elle s'affligea de voir qu'elles l'étaient par Lorenzo. L'air que l'on jouait était plaintif et mélodieux. Il s'accordait avec l'état d'âme d'Antonia, et elle l'écouta avec plaisir. La musique cessa, les exécutants se dispersèrent, et le calme régna dans la rue. Selon son habitude, Antonia se recommanda à Sainte Rosalie, dit ses prières de tous les soirs, et se mit au lit. Le sommeil ne tarda pas à venir, et à la délivrer de ses terreurs et de son inquiétude. Il était près de 2 heures lorsque le moine luxurieux se hasarda à diriger ses pas vers la demeure d'Antonia. Il a déjà été dit que le monastère n'était pas loin de la rue San Lago. Ambrosio parvint jusqu'à la maison sans être vu. Là, il s'arrêta et hésita un moment. Il réfléchit à l'énormité du crime, aux conséquences s'il était découvert, et à la probabilité, après ce qui s'était passé, qu'Elvire le soupçonna d'être l'auteur du viol. D'un autre côté, il se disait que ce ne serait que des soupçons, qu'on ne pourrait produire aucune preuve du crime, qu'il paraîtrait impossible que la violence eût été commise sans qu'Antonia sût quand, où et par qui. Enfin, il regardait sa réputation comme trop fermement établie pour être ébranlée par les accusations isolées de 2 inconnus. Ce dernier argument était entièrement faux. Il ne savait pas combien est incertain le vent de la faveur populaire, et qu'un moment suffit pour faire aujourd'hui exécrer du monde celui qui, hier, en était l'idole. Le résultat de la délibération du moine fut qu'il poursuivrait son entreprise. Il franchit les marches qui menaient à la maison, il n'eut pas plutôt touché la porte avec le myrte d'argent qu'elle s'ouvrit et lui donna un libre accès. Il entra et la porte se referma d'elle-même après lui. Guidé par la lueur de la lune, il monta l'escalier avec lenteur et précaution. À tout moment, il regardait autour de lui, inquiet et craintif. Il voyait un espion dans chaque ombre et entendait une voix dans chaque murmure de la brise nocturne. La conscience de l'attentat qu'il allait consommer épouvantait son cœur et le rendait plus timide que celui d'une femme. Cependant, il continua. Il atteignit la porte de la chambre d'Antonia. Il s'arrêta et écouta. Tout était paisible au-dedans. Ce silence absolu le convainquit que sa victime reposait, et il se hasarda à lever le loquet. La porte était verrouillée et résista à ses efforts. Mais elle ne fut pas plutôt touchée par le talisman que le verrou se tira. Le ravisseur entra et se trouva dans la chambre où l'innocente fille dormait sans se douter qu'un si dangereux visiteur fut près de sa couche. La porte se referma derrière lui et le verrou revint de lui-même à sa place. Ambrosio avança avec prudence. Il prit soin que pas une planche ne criât sous son pied, et il retint son haleine en approchant du lit. Sa première attention fut d'accomplir la cérémonie magique ainsi que Mathilde le lui avait prescrit. Il souffla 3 fois sur le myrte d'argent en prononçant le nom d'Antonia et le mit sous l'oreiller. Les effets qu'il avait obtenus ne lui permettait pas de douter que le talisman ne réussît à prolonger le sommeil de celle qu'il allait posséder. À peine l'enchantement fut-il terminé qu'il la considéra comme absolument en son pouvoir, et ses yeux étincelèrent de désir et d'impatience. Alors il jeta un regard sur la belle endormie. Une simple lampe qui brûlait devant la statue de Sainte Rosalie répandait une faible lueur dans la chambre et permettait d'examiner tous les charmes de l'aimable objet qui était devant lui. La chaleur du temps l'avait obligé à rejeter une partie des couvertures. Celle qui la cachait encore, l'insolente main d'Ambrosio se hâta de les écarter. Elle avait la joue appuyée sur un bras d'ivoire, l'autre reposait sur le bord du lit avec une gracieuse indolence. Quelques tresses s'étaient échappées de la mousseline qui enfermait sa chevelure et tombaient en désordre sur son sein, que soulevait une lente et régulière respiration. La chaleur avait semé sur sa joue des couleurs plus vives qu'à l'ordinaire. Un sourire, d'une douceur inexprimable, se jouait autour de ses lèvres de corail, d'où par intervalles s'échappait un faible soupir ou des mots inarticulés. Un air d'innocence et de candeur enchanteresse, et il y avait dans sa nudité même une sorte de décence qui ajoutait de nouveaux aiguillons au désir du moine luxurieux. Il resta quelque temps à dévorer des yeux ses charmes, qui bientôt allaient être la proie de ses passions déréglées. Une bouche entr'ouverte semblait solliciter un baiser. Il se pencha dessus, unit ses lèvres aux lèvres d'Antonia et en aspira avec transport l'haleine parfumée. Ce plaisir fugitif accrut son ardeur pour de plus vives jouissances. Ses désirs étaient montés à cette frénésie dont les brutes sont agitées. Il résolut de n'en plus retarder l'accomplissement d'un seul instant, et d'une main impatiente, il se mit à arracher les vêtements qui l'empêchaient d'assouvir sa fureur.
« Bonté divine !» s'écria une voix derrière lui. « Ne me trompais-je point ? N'est-ce point une illusion ?»
La terreur, la confusion et le désappointement accompagnèrent ces mots quand ils frappèrent l'oreille d'Ambrosio. Il tressaillit et se retourna. Elvire était debout, à la porte de la chambre, et contemplait le moine avec des regards de surprise et d'exécration. Un songe effrayant lui avait représenté Antonia auprès d'un précipice. Elle l'avait vue tremblante sur le bord. Chaque instant semblait menacé de sa chute, et elle l'entendait crier « Sauvez-moi, ma mère, sauvez-moi, encore un moment, et il sera trop tard !» Elvire s'était éveillée d'épouvante. La vision avait fait sur son esprit une trop forte impression pour lui permettre de reposer sans s'être assurée de la sûreté de sa fille. Elle avait quitté précipitamment le lit, avait passé une robe, et traversant le cabinet où donnait la femme de chambre, elle était arrivée chez Antonia, juste à temps pour la sauver des embrassements de son ravisseur. Pétrifiés tous deux, l'un de honte, l'autre de stupeur, Elvire et le moine semblaient changer en statue. Ils restaient en silence à se regarder, l'un l'autre. La dame fut la première à se remettre. « Ce n'est point un rêve !» s'écria-t-elle. « C'est réellement Ambrosio qui est devant moi, l'homme que Madrid estime en saint. C'est lui que je trouve à cette heure près du lit de ma malheureuse enfant. Monstre d'hypocrisie, je soupçonnais déjà vos desseins, mais je retenais l'accusation par pitié de la fragilité humaine. Maintenant le silence serait criminel. Toute la ville va être instruite de votre incontinence. Je vous démasquerai, misérable, et j'apprendrai à l'Église quelle vipère elle réchauffe dans son sein. » Pâle et confus, le coupable interdit restait tremblant devant elle. Il aurait bien voulu atténuer sa faute, mais il ne trouvait rien qui pût le justifier. Il ne lui venait à la bouche que des phrases sans suite, que des excuses qui se contredisaient l'une l'autre. Elvire était trop justement irritée pour accorder le pardon qu'il demandait. Elle protesta qu'elle allait éveiller le voisinage et faire de lui un exemple pour tous les hypocrites à venir. Alors, courant au lit, elle cria à Antonia de s'éveiller. Et voyant que la voix n'avait point d'effet, elle lui prit le bras et la releva de dessus l'oreiller. Le charme opérait trop puissamment. Antonia resta insensible, et quand sa mère la laissa aller, elle retomba sur l'oreiller. « Ce sommeil n'est pas naturel !» s'écria Elvire étonnée, et dont l'indignation croissait d'instant en instant. « Il y a là-dessous quelque mystère. Mais tremblez, hypocrite, votre scélératesse sera bientôt démasquée. « Au secours ! Au secours » cria-t-elle. « Venez ici, Flora ! Flora !»« Écoutez-moi un seul instant, madame !» s'écria le moine, rappelé à lui par l'urgence du danger. « Par tout ce qu'il y a de saint et de sacré, je jure que l'honneur de votre fille est intact. Pardonnez mon offense. Épargnez-moi la honte d'être découvert et permettez-moi de regagner librement le couvent. Accordez-moi cette grâce par pitié. Je vous promets non seulement qu'Antonia n'aura plus rien à craindre de moi à l'avenir, mais encore que le reste de ma vie prouvera. » Elvire l'interrompit brusquement. « Qu'Antonia n'aura rien à craindre, j'y veillerai. Vous ne tromperez pas plus longtemps la confiance des mères. Votre iniquité sera dévoilée à tous les yeux. Madrid entier frémira de votre perfidie, de votre hypocrisie, de votre incontinence. Allons donc. Ici, Flora, Flora !» Tandis qu'elle parlait, le souvenir d'Agnès frappa l'esprit du moine. C'est ainsi qu'elle avait imploré sa pitié, et c'est ainsi qu'il avait rejeté sa prière. C'était maintenant son tour de souffrir, et il ne put s'empêcher de reconnaître que sa punition était juste. Elvire, cependant, continuait d'appeler Flora à son aide, mais sa voix était tellement étouffée par l'indignation que la domestique, qui était ensevelie dans un profond sommeil, était insensible à tous ses cris. Elvire n'osait pas aller vers le cabinet où dormait Flora, de peur que le moine n'en profitât pour s'échapper. C'était effectivement son intention. Il se flattait que, s'il pouvait gagner le monastère sans avoir été vu par d'autres que par Elvire, ce seul témoignage ne suffirait pas pour ruiner une réputation aussi bien établie que l'était la sienne à Madrid. Dans cette idée, il ramassa les vêtements dont il s'était déjà dépouillé et courut vers la porte. Elvire vit son dessein, elle le suivit, et avant qu'il pût tirer le verrou, elle le saisit par le bras et l'arrêta. « N'essayez pas de fuir, » dit-elle. « Vous ne quitterez pas cette chambre sans que votre crime ait eu des témoins. » Ambrosio essaya en vain de se dégager. Elvire ne lâchait pas prise et redoublait ses cris pour avoir du secours. Le danger du moine devenait plus pressant. Il s'attendait d'instant en instant à voir le peuple accourir à ses cris, et poussé à la démence par l'approche de sa perte, il adopta une résolution désespérée et sauvage. Se retournant tout à coup, d'une main, il serra Elvire à la gorge pour arrêter les clameurs qu'elle poussait, et de l'autre, la terrassant avec violence, il la traîna vers le lit. Troublée de cette attaque inattendue, elle eut à peine la possibilité d'essayer de lutter contre son étreinte. Le moine, arrachant l'oreiller de dessous la tête de la fille, en couvrit la figure de la mère, et lui appuyant de toute sa vigueur son genou sur la poitrine, il tâcha de lui ôter la vie. Il n'y réussit que trop bien. La victime, dont la force naturelle était accrue par l'excès de son angoisse, se débattit longtemps pour lui échapper, mais en vain. Le moine, le genou toujours appuyé sur son sein, contempla sans pitié le tremblement convulsif de ses membres et soutint avec une fermeté inhumaine le spectacle de ces déchirements du corps et de l'âme près de se séparer. Enfin, l'agonie se termina. Elvire cessa de disputer sa vie. Le moine retira l'oreiller et la regarda. Son visage était couvert d'une noirceur effrayante. Ses membres ne remuaient plus. Le sang était gelé dans ses veines. Son cœur avait cessé de battre et ses mains étaient raides et glacées. Cette noble et majestueuse femme n'était plus qu'un cadavre, froid, insensible et révoltant. Cet acte horrible ne fut pas plutôt consommé que le prieur sentit l'énormité de son crime. Une sueur froide coula sur tout son corps, ses yeux se fermèrent, il chancela et s'affaissa sur une chaise, presque aussi privé de vie que l'infortuné qui gisait à ses pieds. Il fut tiré de cet état par la nécessité de fuir et par le danger d'être trouvé dans la chambre d'Antonia. Il n'avait aucun désir de recueillir le fruit de son forfait. Antonia ne lui inspirait plus que de la répugnance. Un froid mortel avait remplacé l'ardeur qui lui brûlait le sein. Il ne s'offrait plus à son esprit que des idées de mort et de crime, de honte présente et de châtiment futur. Agité par le remords et par la crainte, il se prépara à fuir. Toutefois, sa terreur ne dominait point assez ses souvenirs pour l'empêcher de prendre les précautions nécessaires à sa sûreté. Il remit l'oreiller sur le lit, ramassa ses vêtements et, le funeste talisman à la main, il dirigea vers la porte ses pas mal assurés. Éperdu de frayeur, il s'imaginait qu'une légion de fantômes empêchait sa fuite. À chaque détour, il croyait voir le corps défiguré qui lui barrait le passage, et il fut longtemps avant de parvenir jusqu'à la porte. Le myrte enchanté produisit son premier effet. La porte s'ouvrit, et il se hâta de descendre l'escalier. Il rentra sans être vu au monastère, et s'étant renfermé dans sa cellule, il abandonna son âme aux tortures d'un impuissant remords et aux terreurs d'un péril imminent.